au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes jeudi, c'est le 13 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Au menu aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question de la loi 2, le Québec qui recule sur la surveillance des médecins. On aura avec nous aussi Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawinie. Il sera question de Nouveau Monde Graphite. Nicolas Dufour, aussi avec nous, maire de Repentigny. On va parler aujourd'hui avec Nicolas Dufour du dépôt du prochain budget. Mathieu Bélanger avec nous, notre analyste politique. Il sera question de la réforme du mode de scrutin. Mais tout d'abord, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui tend encore la main aux médecins pour reprendre les discussions. Mais déjà, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, Marc-André Amiot, réclame une rencontre avec la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Et Pierre Jubinville en a parlé avec la docteure Lynn Couture, la présidente de la Fédération des médecins omnipraticiens, Laurentide Lanaudière.
Donc, le gouvernement du Québec a encore reculé concernant la loi 2 aujourd'hui. Votre réaction?
Bien, écoutez, notre réaction, ma réaction, nous autres à la molle, c'est qu'on se dit, bien, vous savez, tant mieux qu'il recule, qu'il constate les effets négatifs. En même temps, il semble pas du tout vouloir l'enlever de la loi. Hein? Donc, que eux nous disent qu'eux ne l'appliqueront pas. La portion, là, c'est ça, on s'entend, ce n'est que pour la portion surveillance des médecins là, qu'ils ont reculé. Tant mieux, on voit le geste, mais il n'y a rien qui nous garantit que le prochain ministre de la Santé pourrait pas l'utiliser. C'est dans la loi. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est si vous voulez vraiment faire un geste d'ouverture, faites-le par écrit dans la loi, pas juste de le dire, parce que dans cette loi-là, n'oublions pas qu'ils prennent la peine d'écrire noir sur blanc, que toute entente pourrait être bafoué ou enfin complètement renversé, tout simplement par décret du ministre. Alors, vous voyez que pour nous, parler d'un côté de la bouche et de l'autre en même temps un peu. Alors, fait que donc, mais ce qu'on espère au-delà de ça, c'est que les canaux de communication vont reprendre.
Est-ce réaliste de trouver une autre voie si la loi n'est pas suspendue?
Bien, écoutez, est-ce que c'est réaliste? Nous, on est peut-être idéaliste, mais on est rempli encore d'espoir parce qu'il faut qu'on arrive à trouver une entente pour la population, pour les médecins, pour le gouvernement. Ça peut pas continuer comme ça. Actuellement, tout le monde est perdant. Les patients sont perdants, les médecins partent. Donc, ceux qui restent sont perdants en plus. Le gouvernement fait pas de point. Tout le monde perd là, actuellement. Je pense que juste les avocats qui sont en train de gagner dans le bras de fer qui se tient actuellement. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est on doit trouver un terrain d'entente. On demande, vous savez, nous autres, ce qu'on demande là pour retourner à la table de négociation, c'est la suspension de la loi 2, de les indicateurs de performance, on est d'accord, mais pas pour le volume, pour des indicateurs de qualité. Enlever les pastilles de couleur puis de permettre à des fonctionnaires de décider, d'aller fouiller dans votre dossier puis de décider si vous êtes rouge, vert ou jaune, ça n'a pas de bon sens. Puis on veut des garanties pour avoir du personnel pour être capable de livrer les soins, là, tu sais, de donner la. Si on s'engage à donner de la marche, à livrer des soins, on veut avoir ce qu'on a de besoin. Alors, nous, on est toujours là, on est d'accord pour regarder tout ça, en autant qu'effectivement, là, on arrive à lever ça, là.
Finalement, la loi 2 tombe morceau par morceau. Est-ce que Christian Dubé vous apparaît encore comme un interlocuteur crédible?
Bien, écoutez, je pense que quand on était au Centre Bell dimanche dernier, c'était assez clair que les gens n'ont plus confiance en Christian Dubé. Nous, on a besoin à ce moment-ci que le gouvernement fasse un pas pour rétablir la confiance envers les médecins. Parce que dire qu'on va le faire de bonne foi, ça fait 2 ans qu'on essaie de négocier de bonne foi. On a bien vu que eux, c'était clair dans leur tête que c'était le projet de loi 106, puis en fait même que la loi 2 était déjà dans leur carton. Ils n'ont jamais eu l'intention de négocier de bonne foi. En tout cas, c'est notre prétention. Alors là, vous comprenez pourquoi ça nous prend des garanties, des écrits. Pourquoi juste la parole de Christian Dubé n'est plus suffisante. C'est vraiment dommage de dire ça. Là. Honnêtement, je préférerais pas dire ça. Mais force est de constater que la confiance n'est pas là. Alors, il faut être capable de créer des conditions qui vont faire renaître la confiance. Il semble que Christian Dubé fasse peut-être moins partie de cette équation-là pour l'instant, mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Alors, si on met quelqu'un d'autre qui va reprendre exactement la même chose que ce que M. Dubé fait, on ne sera pas gagnant. On a vraiment besoin de quelque chose qui va rétablir la confiance.
Donc, pour reprendre les négociations, il faut absolument suspendre la loi 2.
Bien, non seulement suspendre, comme je vous dis, là, mais tu sais, après ça, donc qu'on suspende, qu'on puisse vraiment négocier, pas dans le cadre de la loi 2, mais dans le cadre des intérêts réels de la population. Parce que la loi 2, actuellement, ce qu'elle est en train de faire, puis ça, je pense que le gouvernement ne l'avait pas vu venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discuté de ça avec les gens du terrain. C'est qu'elle est en train d'affaiblir d'abord et avant tout la première ligne. C'est les médecins dans les cabinets qui sont les plus touchés par ça. C'est pour ça que vous voyez les gens actuellement dans les GMF dire « on n'arrivera pas ». Alors ça, c'est la première affaire. Fait que suspendons cette folie, puis reprenons la discussion sur des choses intelligentes, sur des bases qui vont permettre de donner plus de soins, parce que c'est ça que tout le monde veut. Là, on s'entend avec le gouvernement, on veut donner de l'accès à tout le monde. Mais il faut trouver une solution parce qu'il manque 2000 médecins de famille et probablement plus maintenant. Alors, il faut trouver une façon de donner ces soins-là et donc de travailler ensemble, pas l'un contre l'autre.
Bon, c'était la docteure Lynn Couture, la présidente de la Fédération des médecins omnipraticiens, Laurentide de Lanaudière. On aura l'occasion de revenir là sur la loi 2 un peu plus tard au cours de l'émission avec Jacques Plante. Il est 16h13. Dans un moment, notre analyste politique Mathieu Bélanger, avec qui il sera question de la réforme du mode de scrutin.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur, à Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxé qu'on n'en joue pas.
Il est 16h16. La réforme du mode de scrutin au Québec refait surface dans l'actualité. Québec solidaire a déposé un projet de loi là, qui ferait passer le mode actuel uninominal à un tour au mode de scrutin qui est dit proportionnel mixte. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais notre analyste politique, Mathieu Bélanger, va décortiquer tout ça. Il s'est entretenu un peu plus tôt avec le collègue François Morin.
Donc, présentement, on sait qu'on a des circonscriptions électorales, des bouts de territoire dans lesquels il y a des élections, le candidat ou la candidate qui a le plus de votes l'emporte. Ce qui fait qu'il n'est pas rare, au contraire, il est fréquent qu'une personne devienne députée en ayant moins de 50% des votes dans sa circonscription, parce que s'il y a trois candidats qui ont 33, 33 et 34% des votes respectivement chacun, mais la personne avec 34% est la personne qui a le plus de votes, c'est la personne qui est élue. C'est notre mode de scrutin actuel, puis dans notre mode de scrutin actuel, ce qu'on va reprocher, c'est que au final, le résultat, quand on regarde là, dans l'ensemble de la province ou dans l'ensemble du pays, le pourcentage de votes que chacun des partis reçoit ne correspond pas au pourcentage de sièges ou au pourcentage de députés que chaque parti reçoit. C'est ce qui explique que le gouvernement caquiste actuel est majoritaire, même très majoritaire, alors qu'il y a moins de 50% des gens qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections. Mais la proposition qui est le plus souvent débattue depuis quand même plusieurs années, on aurait certains députés qui seraient élus comme ceux actuels, donc par des circonscriptions électorales, la personne qui a le plus de votes gagne, mais aussi on découperait le territoire en différentes régions, et dans chacune de ces régions-là, d'autres députés seraient élus de façon proportionnelle, c'est-à-dire que si dans une région donnée, un parti politique obtient 25% des votes de la région, ben il obtient 25% des députés auxquels il a droit dans cette région-là. Donc, il y aurait deux formes de députés.
Pour toujours, pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de tomber dans l'arbitraire puisqu'on avec justement là, le maintien dans certaines régions du mode de scrutin qu'on connaît?
D'arbitraire, oui et non. C'est-à-dire que on fonctionne dans un processus encore démocratique. Il y a d'autres pays qui fonctionnent de la même façon que nous. Un modèle qu'on cite souvent, c'est l'Allemagne, qui utilise un mode de scrutin là, très similaire. Il y a toujours des particularités, évidemment, là, d'un pays à l'autre en fonction du nombre de députés élus par circonscription par rapport au nombre de députés élus par le scrutin proportionnel. Il y a plusieurs désavantages de ce mode de scrutin-là. Il y a beaucoup d'avantages aussi. Tous les modes de scrutin ont des désavantages et des avantages. C'est sûr que ça peut faire en sorte que des candidatures soient mises de l'avant et soient à peu près garanties d'être élues parce que un parti politique obtient toujours un certain pourcentage de votes et donc le premier choix du parti va être élu. Mais c'est vrai que notre mode de scrutin à nous aujourd'hui, la dernière fois qu'un péquiste a été élu autrement, c'est pas arrivé. Donc il y a des endroits, des circonscriptions électorales qu'on sait où que le candidat de telle ou telle formation politique, peu importe c'est qui, peu importe ses mérites ou ses démérites, va être élu. Et donc en ce sens-là, ça se ressemble aussi. Évidemment, le plus gros désavantage d'une telle réforme, si jamais ça devait voir le jour, c'est que ça fait en sorte, mais pour certains c'est un avantage aussi, là, cela dit, ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir des gouvernements majoritaires. On a à peu près toujours besoin d'avoir des coalitions entre des formations politiques, un petit peu comme on a vu, si on veut faire un parallèle boiteux, avant les dernières élections fédérales, le partenariat qu'il y avait entre le Parti libéral et le NPD, mais de façon plus réaliste, on peut imaginer qu'avec un mode de scrutin comme celui qui est proposé notamment par Québec solidaire dans le projet de loi qui a été déposé hier, on aurait des gouvernements composés de plusieurs partis politiques. Là aussi, comme ça, donc un premier ministre caquiste, par exemple, avec un ministre des Finances péquiste et ainsi de suite. Là, évidemment, j'invente complètement. Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays qui utilisent un mode de scrutin comme ça, comme par exemple en Allemagne, pour reprendre cet exemple-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement inusité, même si, évidemment, ça serait un changement complet par rapport à notre fonctionnement politique là au Québec, si le projet de loi était adopté.
Évidemment, on ne s'attend pas à ce que le projet de loi soit débattu au cours de la présente session, d'autant plus que c'est un projet de loi qui vient de l'opposition, et tout le monde le sait, c'est le gouvernement qui décide du dépôt des projets de loi. Par contre, dans les circonstances où la CAQ n'a que 17% des intentions de vote, elle aurait quand même intérêt à regarder ça de près.
D'un point de vue strictement partisan et intéressé du terme, oui. D'ailleurs, le mouvement Démocratie Nouvelle qui est derrière aussi tout ce projet de loi-là et cette volonté-là de réformer le mode de scrutin, c'est sa cause. En fait, un estimé, une évaluation, qu'est-ce que ça aurait pu être avec les intentions de vote actuelles, ou à peu près, là, c'est au début du mois notamment qui avait fait publié cette analyse-là, si on avait adopté le mode de scrutin qui est actuellement proposé ou à peu près par Québec solidaire. Puis, ça aurait permis d'avoir un gouvernement non pas majoritaire, un gouvernement péquiste, ou en tout cas, probablement péquiste, avec le Parti québécois en ayant un petit peu moins de la majorité des députés. Et pour ce qui est de la CAQ, d'avoir un 15 députés quand même avec un tel mode de scrutin plutôt qu'aucun ou un en fonction là, des tendances actuelles, en fonction de notre mode de scrutin actuel. Donc, d'un strict point de vue de son intérêt et de garder des jobs finalement pour les députés caquistes, si la tendance se maintient toujours, oui, un tel mode de scrutin serait beaucoup plus avantageux, et c'est ça le propre d'un tel mode de scrutin plus proportionnel, de permettre aux plus petites formations politiques d'en bénéficier. Ça facilite la vie des petits partis politiques. Pour les plus gros partis politiques, par contre, ça leur empêche, ou en tout cas, ça réduit les chances qu'ils se forment des gouvernements majoritaires avec plus, finalement, gouverner seuls juste avec leurs propres idées. C'est généralement pourquoi que les partis, lorsqu'ils deviennent majoritaires, justement, qu'ils forment le gouvernement, ils abandonnent cette idée-là parce que tout d'un coup, ils trouvent les mérites à pouvoir gouverner sans compromis avec les autres formations politiques. Et lorsqu'ils reviennent à l'opposition, ben ils se trouvent que finalement, c'est intéressant de donner plus de pouvoir aux partis d'opposition. Le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec ont déjà promis une réforme du mode de scrutin à l'opposition pour nous faire pouvoir abandonner ces idées-là. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va adopter, selon toute vraisemblance, une réforme du mode de scrutin.
Ah, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Souvenez-vous, ça faisait partie des promesses électorales de la CAQ de réformer le mode de scrutin là, avant la première élection de la CAQ, une fois au pouvoir. Bon, on oublie ça, hein? Mais dans la situation dans laquelle se retrouve la CAQ là, au niveau des sondages présentement, il y aurait peut-être intérêt à réformer le mode de scrutin.
Lanaudière PM, affaires municipales.
16h24 à Repentigny, l'équipe du maire Nicolas Dufour est déjà au travail en vue de la présentation du prochain budget le 9 décembre. Et le maire promet une augmentation des taxes qui sera en deçà de l'inflation. Un entretien qui a été réalisé par le collègue Régent Turgeon.
Première chose à faire, on prépare un budget 2026.
Oui, ben premièrement, on accueille le mandat avec humilité, mais avec un grand enthousiasme parce qu'on a vu qu'on a eu un grand support de la part de la population. Donc, déjà, on s'est rapidement activé au travail. Samedi, on a assermenté les élus. On est déjà dans la préparation budgétaire pour l'année qui s'en vient. On avait déjà fait un travail là, de préparation avec les équipes avant le déclenchement électoral. On vise toujours l'inflation pour au niveau de l'augmentation du compte de taxes là, pour la prochaine année. Comme on s'est engagé auprès des citoyens, toujours viser l'inflation ou en bas. Donc là, cette année, là, on va être en mesure d'offrir un budget qui va être équilibré, responsable, rigoureux, mais surtout qui protège le portefeuille des citoyens.
Autre priorité pour 2026 en termes d'infrastructure, entretien routier et tout ça, on a déjà une bonne idée de ce qu'on veut faire.
Ouais, ben là, on va terminer la dernière portion qui reste sur la rue Notre-Dame. Donc, enfin, la rue Notre-Dame va être terminée, puis on va être bon pour 30-40 ans. Ensuite, on s'attaque dès l'année prochaine à la rue Iberville. Donc, on va faire de la rue Iberville là, du secteur de Laurentien jusqu'au IGA, là, complètement dans l'Est. On va y aller un peu sur la même modus operandi que l'ancienne administration, puisqu'on avait continué sur Notre-Dame, séparer Iberville en plusieurs tronçons qu'on va faire graduellement là, au cours des 5 prochaines années. On a beaucoup d'investissements au niveau routier, aqueduc, infrastructure d'eau. 90% de notre budget d'investissement pour l'année prochaine est dédié au maintien des actifs. Donc, pas nécessairement de nouveaux projets, mais surtout réparer le toit qui coule avant de rénover la salle de bain ou de faire une nouvelle cuisine.
Monsieur Dufour, la dernière campagne électorale a prouvé une chose, c'est que le projet Avancia est controversé. Il est peut-être mal perçu chez certains. Comment on fait pour vendre l'idée d'Avancia en 2026? Il y a un travail de communication à faire à ce niveau-là encore.
Ah ben toujours, puis il y a toujours de la pédagogie à faire, mais moi je ne vois pas ça comme étant un si grand enjeu. Hein. À 70%, les gens nous ont reconfié un mandat et c'était un référendum sur Avancia. Là. Je pense que personne à Repentigny était naïf. Tout le monde savait les enjeux de la campagne électorale. Les gens, on a rencontré beaucoup d'électeurs qui avaient pris le temps de faire leur devoir, d'évaluer les positions de chacun des partis, de voir les projets qui étaient présentés sur la table. Moi, à 70%, je sens qu'il y a un bel enthousiasme pour Avancia. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des partis politiques à Québec qui, à 70%, gagnaient un référendum à 70%, ils auraient été très heureux, ça aurait changé le cours des choses. Donc, moi, je pense que le message était assez clair au niveau de la population. Ils veulent que Repentigny avance, ils veulent qu'on attire des nouvelles entreprises, ils veulent qu'on fasse du logement abordable et social. Mais, bien sûr, on va continuer en toute humilité à faire de la pédagogie, à expliquer le projet, les prochaines étapes. Donc, où on va s'assurer là, d'une communication là, qui va être davantage ciblée auprès des citoyens.
Les premières réponses là, des entreprises que vous avez sollicitées ces derniers mois, ces dernières semaines, on est ouvert à l'idée.
Ah oui, ben déjà, on a un premier projet là, qui va être déposé en décembre là, pour l'ancienne friterie au coin de Leclerc et industriel. Beaucoup d'entreprises attendaient le résultat des élections là, pour voir la suite des choses, à savoir si Avancia allait de l'avant. Et le téléphone ne dérougit plus depuis une semaine. Donc, autant au niveau industriel que commercial, les gens sentent que Repentigny est prêt pour ce changement-là. Et au niveau industriel et commercial, là, les appels surviennent parce que les gens sont prêts à investir.
On a toujours entendu dire de votre part qu'il n'y aurait pas d'expropriation. Ça tient toujours?
Toujours. Je respecte ma parole comme je l'ai toujours faite en politique. Donc, effectivement, il n'y aura pas d'expropriation. On va sur un projet là, qui va prendre une dizaine d'années. Donc, on va y aller au fur et à mesure des entreprises là, qui quittent le secteur. Déjà, le lendemain des élections, il y a plusieurs propriétaires de terrain là, du parc industriel qui nous ont mentionné leur volonté de vendre à court, moyen terme. Donc, pour eux, là, des entreprises qui malheureusement pas de relève entrepreneuriale ou le propriétaire pour son fonds de pension et la valeur du terrain, pas nécessairement l'entreprise. Donc, autant au niveau des entreprises qui veulent vendre des terrains que des constructeurs qui veulent venir, là, il y a un grand appétit.
Il y avait des inquiétudes chez beaucoup de gens concernant l'aspect densification de ce projet-là. On peut atténuer ces craintes-là?
Ben, moi, je pense que ça va être par le dialogue, par prendre le temps d'expliquer le projet, de faire davantage de rencontres citoyennes. Parce que, je le réitère, la densification qu'on fait avec Avancia est assez douce. Quand on se rappelle qu'il y a eu 2 tours de 30 étages qui ont été faites le long du fleuve Saint-Laurent, ce qu'on ne veut plus jamais revivre à Repentigny, ben, je pense que du 8 étages, du 10 étages, avec une bonne part de logement social, c'est acceptable pour la population de Repentigny.
Bon, voilà, c'était le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, là, qui déposera prochainement son nouveau budget. Et puis aussi, vous rappelez que le maire de Repentigny est en beau maudit, est en beau fusil contre Hydro-Québec et les multiples pannes dans Repentigny là, depuis cet été-là.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense à partir de Bourget et ce jusqu'à, au pont d'étagement du CN, là, où on commence à vraiment à reprendre de la vitesse, malgré qu'on est encore nombreux. Le traversée facile vers la rive nord, Repentigny, Carantès, ça se passe bien. La montée de l'Épiphanie, là, c'est très lourd depuis la 40 et ce jusqu'à la rivière des Belles-Îles. Pont Le Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 Nord, et là là, c'est depuis le boulevard Henri-Bourassa à Montréal. Là. C'est très dense jusqu'au boulevard des Belles-Îles à Laval. Traversée facile tout de même là, vers Terrebonne. Pont Sophie-Masson, un peu lourd à l'approche. Traversée simple de la rivière des Belles-Îles et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40. C'est dense à l'approche de la montée des Pionniers et en direction ouest, c'est depuis la montée des Pionniers jusqu'à la montée du Mail, là où c'est quand même passablement lourd. Les nouvelles dans un instant.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps.
comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Pierre Jubinville est là pour livrer l'actualité. Tout d'abord, Pierre, une bonne nouvelle pour les gens de Saint-Michel-des-Saints, le Nouveau Monde Graphite qui est parmi les 6 projets d'intérêt national.
Oui, le gouvernement fédéral souhaite appuyer sur l'accélérateur concernant ce projet. Mark Carney recommande au Bureau des grands projets pour obtenir la désignation justement d'intérêt national. Ottawa estime que ce projet est prometteur pour le secteur de la défense et aussi pour la chaîne d'approvisionnement en batteries en plus d'être alimenté par l'électricité propre du Québec.
La mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite va transformer les chaînes mondiales d'approvisionnement en batteries. Et ce projet va s'intégrer à l'usine de matériaux de batteries de Bécancour afin de produire du graphite utilisé dans les batteries de véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.
M. Carney qui va encore devoir travailler un petit peu sur ses cours de français. On est quand même inquiet dans la région.
Oui, il y a encore de l'inquiétude. Le gouvernement du Québec et du Canada ont, semble-t-il, manqué de transparence au sujet des impacts sur le transport et l'environnement. On écoute la préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perrault.
Des comités de suivi ou les associations de lacs, les environnementalistes, le développement économique sont présents. Il y a quand même, comme je vous dis, c'est un bon soin corporatif. Oui, effectivement, ils ont reçu toutes les autorisations nécessaires, mais ça reste que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, nous ne sommes pas une région minière. On connaît mal le régime minier. Donc, la communication, le transfert d'informations, la transparence va être capitale.
Le 3 novembre dernier, Claude, la porte-parole de la minière Julie Paquette, avait expliqué à CFNG Nouvelles que des ententes ont été signées avec des partenaires économiques et le gouvernement fédéral dans le cadre d'une réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7.
On a Panasonic, on a un fabricant d'anodes là, pour approvisionner GM, donc Praxis, qui est un distributeur international là, vraiment avec un réseau très étendu, et le gouvernement du Canada qui vient prendre quand même près d'un tiers de la production de la mine pour sécuriser son approvisionnement. On sait que c'est un enjeu en géopolitique avec la Chine là, qui vraiment contrôle le secteur du graphite et également pour réserver des volumes pour nos alliés dans le cadre du G7.
Bon, maintenant, Québec qui dit non à l'élargissement des crédits d'impôt aux médias électroniques.
Juste avant, Claude, oui. L'autre nouvelle du jour, la Fédération des médecins.
Oui.
Qui a rejeté, les deux fédérations de médecins ont rejeté la main tendue par Québec.
Oui.
La FMOQ ajoute que le ministre de la Santé n'est plus le bon interlocuteur dans ce dossier.
Le recul du ministre Christian Dubé sur les mesures de surveillance inscrites dans la loi 2,
cet arrêté-là qu'on pouvait faire, on ne le fera jamais,
est encore insuffisant pour convaincre le président des médecins omnipraticiens de revenir à la table des négociations.
Le gouvernement a reculé trois fois sur des petites mesures, mais pas sur l'essentiel.
Selon le docteur Marc-André Amiot, le ministre de la Santé n'a tout simplement plus la crédibilité pour négocier.
Parce que il veut justifier sa loi, il tient à sa loi.
Il préfère donc parler directement avec la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau.
Moi, l'ouverture, je l'ai vue de la part de Mme Duranceau.
Pour le docteur Amiot, la suspension de la loi 2 reste incontournable.
Cette loi-là, elle n'est pas bonne, elle ne doit pas s'appliquer.
Philippe Rodrigue, Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
Bon, parlons-en justement là, des médias électroniques maintenant. Le Québec qui dit non à l'élargissement des crédits d'impôt.
Ouais, le gouvernement refuse de bouger rapidement. Il a rejeté une motion déposée par la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcœur. Motion qui demandait un élargissement des crédits d'impôt accordés aux médias, conformément à une recommandation du groupe du travail sur l'audiovisuel formulée en septembre.
D'élargir le crédit d'impôt pour soutenir la presse d'information écrite à l'audio, la vidéo et le multiplateforme, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'apporter cette modification au crédit d'impôt pour soutenir la presse d'information lors de la mise à jour budgétaire de novembre 2025.
Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement.
Faut rappeler aussi là que y a les journaux là qui crèvent de faim là. On parle de médias électroniques, on baigne là-dedans nous ici là, la radio.
Canada qui vient d'obtenir une nouvelle subvention de 130 millions.
Et oui. Et en terminant, on va parler de cette journée de recueillement en mémoire des victimes des attentats du Bataclan à Paris là. Et je voyais d'ailleurs hier soir à la télévision des reportages souvenirs d'il y a 10 ans là.
Tellement cruel.
C'est cruel et c'est tellement touchant de voir ça et toute la solidarité par la suite.
Ouais. 132 morts et plus de 350 blessés. Alors, un jardin mémorial a été inauguré ce soir à Paris pour commémorer ces attentats d'il y a déjà 10 ans. Le président Macron s'est rendu sur chacun de ces lieux avant la grande cérémonie en soirée où il a prononcé un discours. Il a annoncé que les policiers intervenus dans le Bataclan seront décorés de la Légion d'honneur.
Personne ne peut garantir, malheureusement, la fin des attentats. Mais nous pouvons garantir que pour ceux qui prendront les armes contre la France, la réponse sera intraitable. Que nous continuerons ce combat contre le terrorisme sans relâche et que nous continuerons le combat pour notre jeunesse avec la même force.
Et hier soir, il y a l'ex-président français François Hollande qui était là.
Qui était président en exercice.
Au moment des événements du Bataclan, qui racontait qu'il était intervenu à la télé à minuit. Et dit, ça arrive jamais dans l'histoire qu'un président français intervient à la télé à minuit, mais j'ai dû le faire pour rassurer la population.
Compte tenu de l'ampleur des événements.
Ah, exactement. Merci Pierre Jubinville.
Bonsoir, Claude.
Il est 16h40.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1
Lanaudière PM, ressources naturelles.
Oui, on va revenir sur cette nouvelle du jour, Nouveau Monde Graphite, et bien que la Matawinie reconnaisse que la réalisation de ce projet de Nouveau Monde Graphite et sa reconnaissance par Ottawa là, comme étant un des grands projets nationaux au Canada qui seront porteurs de retombées. Il y a encore de l'inquiétude, on en discutait tout à l'heure d'ailleurs avec Pierre Jubinville. Et il y a le collègue François Morin qui a eu l'occasion d'en discuter un peu plus tôt avec la préfète de la MRC. Merci de Matawinie, Isabelle Perrault. Ça, c'est juste avant la tenue du point de presse du gouvernement.
Isabelle Perrault, une annonce, en fait, une potentielle bonne annonce, une bonne nouvelle pour Nouveau Monde Graphite. Mais évidemment, là, au niveau de la MRC Matawinie, on le sait, c'est pas une région minière. Il y a encore beaucoup d'inconnus, là.
Ben oui, beaucoup d'inconnus, puis d'inconnus sur la planification qu'ont fait les deux paliers de gouvernement pour les infrastructures qui doivent venir avec une mine d'une telle ampleur. Beaucoup d'inconnus aussi au niveau environnemental, de nuisance. On sait que la Matawinie, c'est une région de villégiature, de plein air, de foresterie aussi, mais principalement de villégiature, ce qui fait en sorte que est-ce que le potentiel et l'ampleur qu'aura cette mine-là et à la vitesse à laquelle cette ampleur-là viendra, est-ce que c'est bien planifié? On peut avoir des doutes. Ça fait quand même depuis 2013, là, si ma mémoire est bonne, que le projet est sur la table. Et jusqu'à maintenant, tu sais, on n'a pas eu vraiment beaucoup de planification, de rencontres avec, par exemple, le ministère des Transports pour le transport, le ministère de l'Environnement pour les mesures de protection. Donc, ça va être à suivre de très près.
Nouveau Monde Graphite, jusqu'à maintenant, avance qu'elle a fait toutes les consultations nécessaires pour obtenir l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on est du même avis?
Ben, en fait, Nouveau Monde Graphite est un citoyen corporatif très responsable, informe. Il y a des comités de suivi où les associations de l'ACT, les environnementalistes, le développement économique sont présents. Il y a quand même, comme je vous dis, c'est un bon citoyen corporatif. Oui, effectivement, ils ont reçu toutes les autorisations nécessaires, mais ça reste que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, nous ne sommes pas une région minière. On connaît mal le régime minier. Donc, la communication, le transfert d'informations, la transparence va être capitale pour... c'est sûr que ça fera jamais l'unanimité, puis il y aura toujours des gens contre, puis on comprend ça. Sauf qu'il faudra tout ça pour être en mesure là, de maintenir là, cette acceptabilité sociale-là minimale.
Je reviens sur les deux grands questionnements, transport et environnement. On s'en était déjà parlé, là, au niveau du transport. Mm-hmm. Il y aura effectivement un accroissement de la circulation, surtout sur la 131, et ça, là, il y a de grands questionnements.
Ben, c'est très questionnable, effectivement. Elle est déjà en très mauvaise posture de sécurité. Mais on parle aussi de logement, de formation. C'est beaucoup, beaucoup de dossiers ouverts en même temps, là, quand c'est cette annonce-là qui semble dire que ça va aller rapidement pour un Nouveau Monde Graphite. Il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être mises en place. Puis la 131, elle n'est pas sécuritaire. Les gens ont des doléances importantes et il n'y a pas de transport minier jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que c'est planifié? Moi, j'ai posé la question extrêmement souvent à notre gouvernement. Est-ce qu'il y a une route de contournement qui va être construite vers la Mauricie puisque la transformation devait se faire par Bécancour? Jamais eu de réponse, là.
Et au niveau environnemental, on sait qu'il y a des citoyens qui questionnent encore le projet.
Oui, ils questionnent aussi le processus par lequel c'est arrivé. On a des projets d'exploration qui suscitent beaucoup, beaucoup d'inquiétudes aussi à un autre endroit dans les terres publiques aussi. Donc, c'est normal que cette inquiétude-là soit présente. Donc, il faudra que les ministères responsables et Nouveau Monde Graphite montrent patte blanche, expliquent bien, démontrent aussi la volonté de réparer puis de protéger l'environnement. Puis je sais que plusieurs groupes de citoyens ont des doutes à ce sujet-là.
Alors donc, il faudra attendre l'annonce qui va se faire dans l'ouest du pays pour analyser vraiment là, si oui ou non c'est une bonne nouvelle pour la région.
Ben effectivement, mais tu sais, vous le savez, avec la fermeture de la série Saint-Michel, je sais que pour le développement économique de la Haute-Matawinie, ce sera un vent de fraîcheur, un espoir là, tu sais, parce que c'est vraiment pas facile pour toute l'industrie forestière. Donc c'est mitigé, mais le développement durable est une valeur forte de la MRC Matawinie et des municipalités qui la composent. Donc on va surveiller ça de très près, puis on va voir aussi l'ampleur et l'envergure de ce projet-là à terme là, selon les annonces du gouvernement fédéral.
Ben, ce sont de gros projets pour Nouveau Monde Graphite, Nouveau Monde Graphite là, qui fait vraiment la manchette là, à travers le pays. Il est 16h45, dans un moment, Jacques Plante.
Les membres de la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle le mardi 25 novembre 2025 à 19h au 2545 rue Eugène-Marsan, Sainte-Julienne. Il y sera présenté le rapport annuel ainsi que les états financiers. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet au cfmm.coop.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05.
Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La Clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficace pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquée sur mesure, elle s'adapte à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Au concert du dimanche à CFNJ, Diane Dufresne.
Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
16h47, salut Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde.
Québec qui a dit faire preuve de bonne foi aujourd'hui en annonçant que certains articles de sa fameuse loi 2 ne seront pas appliqués.
Écoute, c'est comme si le ministre de la Santé, Christian Dubé, se prenait tout d'un coup pour un anesthésiste. Il essaie d'endormir le monde.
Ouais, ouais,
ouais. Parce que tu regardes, à la lumière de ce que tu viens de dire, il est prêt à enlever ça. Tu sais, à dire, on va pas, ben, pas l'enlever, à ne pas l'utiliser. Mm. Par contre, il veut pas l'ouvrir, la loi 2, puis enlever ça dans le texte de loi.
Là, on parle de la fameuse surveillance là, des médecins.
Oui, c'est ça. C'est les articles, ça va rien vous dire, les gens, le 141 à 163, là. Ça, c'est pas la neige qui va tomber la semaine prochaine. mais ça oblige, entre autres, les médecins à nommer un inspecteur par milieu de pratique. Ces gens-là vont pouvoir regarder comment ça se passe, s'il y a des gestes de bonne foi, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait une certaine obstruction. Mm. On dit qu'on va pas faire ça. Hier, mais milieu de semaine, il y avait une annonce pour engager des enquêteurs.
Ouais.
Et là, le ministre dit non, on va pas l'utiliser, ce volet-là.
Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a tout changé dans tout ça? C'est le sondage d'hier, le sondage léger d'hier.
Bien, c'est que là, le gouvernement s'aperçoit, tu sais, année jusqu'à maintenant, là, il sortait le bâton, là, puis il disait, on est là, on va dompter tout le monde, et ils se sont aperçus que dans l'opinion publique, c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc, possiblement que le sondage à l'interne, on leur disait ce que le PM et le ministre de la Santé voulaient bien entendre, puis on pourrait embarquer Duranceau là-dedans aussi, là, mm-hmm. Conseil du Trésor. Mais le vrai sondage là, de la firme Léger le donnait comme tel. Les gens sont plus de l'autre côté.
C'est ça. La population n'est pas derrière le gouvernement, contrairement à ce que Christian Dubé et François Legault auraient pu penser, mais c'est tout le contraire. Ils sont derrière les médecins. Là.
Et moi, c'est ça.
Je suis sûr que, en fait, la manifestation aussi là, du week-end a aidé. Là.
Ben oui. Écoute, on a vu qu'il y a quand même un mouvement qui se lève. Et moi, où j'ai de la difficulté avec ça... C'est si t'essaies de négocier ça, c'est qu'au début, là, tu étais de façon très ferme.
Oui.
Et là, plus ça va, plus tu ramollis.
Ouais, tous les jours, on entend parler encore aussi là, des médecins qui veulent s'en aller en Ontario et le premier ministre ontarien qui en a rajouté aujourd'hui, Doug Ford. Mais là, c'est que quand on recule petit à petit pour le gouvernement là-dessus, ben tu perds tout pouvoir de négociation.
Ben, c'est puis de crédibilité, là.
Bon,
parce que tu dis, ben voyons donc, ouais. Ils partent avec... Ça veut dire que, est-ce que ce projet de loi-là, parce que là, on parle de projet de loi 2, mm-hmm. Initialement, c'était 106,
ouais.
Hein? Ça veut dire qu'il a été corrigé. On l'a corrigé en disant, hey, c'est celui-là qu'on envoie. M'a dire de quoi, ceux qui ont écrit ça, là, je sais pas, ils ont peut-être redoublé la maternelle ou... Tu sais, ils sont allés un peu loin, Là, il recule. Venez vous asseoir à la table de négociation. Moi, si j'étais un doc, là, je serais assis devant eux autres avec un grand sourire.
Mais
on vous écoute.
Depuis la réélection de la CAQ, c'est brouillon par-dessus brouillon.
C'est n'importe quoi.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Tu sais, je lisais même avant de venir, là, on parle de la 2, mais dans la loi 14, là, qui est pour le système de transport, notamment de la CUM, de la STM, c'est-à-dire... Oui. La CUM, c'est vieux, ça.
T'aurais pu dire la CTCUM aussi.
Oui, j'aurais pu dire ça aussi. Mais de la STM, ouais. Et là, le PM, et tout le monde a dit à l'Assemblée nationale, ils vont nous passer ça avec le baillon. Boulet a dit, non, on le fera pas. Et là, le PM a confirmé, on le fera pas. Parce que là, le tribunal du travail... a sorti, c'est hier ou avant-hier, en disant, non, s'il y a un débrayage de fait en fin de semaine, on pense pas que la sécurité est mise en péril là-dessus. Mm. Oh boy, mm. Là, ils ont reculé. Alors, déjà, sur des dossiers chauds actuellement, projet de loi 14, la loi 2 au niveau des médecins, ils reculent encore là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la crédibilité de ces gens-là?
Tu prends la loi 2, là, puis tu fais ça avec.
Oui, exactement.
C'est ça.
Exactement.
On repart à zéro.
Oui, puis comme je disais tantôt, allez pas, tu sais, prenez pas les médecins puis les gens du milieu, là, les chirurgiens, tout ça, pour des épais, là.
Mm-hmm.
Tu sais, non, on va pas l'utiliser, mais on la corrige pas, la
c'est
loi.
C'est ça.
Moi, si tu veux me donner des meilleures conditions, pis tu dis, non, gars, on va garder ton contrat de l'année passée. Je regrette, là, mais ça marche pas comme ça. Parce que faut pas oublier, hein, les paroles s'envolent, d'autant plus politiques, mais les écrits restent.
Et là, qu'est-ce que France-Hélène Duranceau pourra venir faire dans tout ça?
Je ne sais pas.
Se faire haïr?
Ben, tu sais, au début, on la voyait beaucoup. Même que moi, je trouvais que c'était un peu exagéré jusqu'à un certain point. Mais on l'a vu aller quand elle avait le dossier de l'habitation, là. Puis de sa façon de fonctionner, un peu hautaine et tout ça. Moi, j'ai de la misère avec ça, et de un. Et là, on voyait dans les scrums, mm-hmm. hein, à la sortie des bureaux ou avant la période des questions, elle prend la pôle sur Dubé. Dubé parle en deuxième. Puis c'est lui le ministre qui a le bâton, là, qui doit driver ce dossier-là. Et là, elle dit, non, le PM m'a demandé de ramener les gens à la table. Et bon, ça va-tu donner grand-chose? Je le sais pas. Au niveau crédibilité, elle aussi, elle a de quoi gagner quelque part. Là.
Rapidement, en terminant, selon le Journal de Montréal, l'ex-caquiste Maïté Blanchette-Vézina, ouvre les portes de l'Assemblée nationale au chef conservateur Éric Duhaime, c'est-à-dire qu'elle ne siégera pas comme conservatrice, mais elle va poser des questions à l'Assemblée nationale, des questions de Duhaime.
Les gens de courroie de transmission.
Oui, c'est ça, et pourrait être en réflexion pour se présenter pour le parti de Duhaime.
Exactement, ça va faire gricher des dents des gens à l'Assemblée nationale.
Oui. Hein? Mais c'est pas comme le cas de Claire Samson. Là. Claire Samson qui était caquiste et qui a carrément transfuge. Qui a été la seule députée, d'ailleurs non élue, là, mais quand même la seule députée du Parti conservateur.
Oui, qui permettait à Duhaime d'utiliser
d'avoir
la salle
un siège.
De presse.
Oui, la salle exactement. De presse, c'est ça. Alors hey, ce sera à suivre.
Ça brasse beaucoup. Hein?
Oui. Merci, Jacques.
Salut.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. La vie dans la Naudière vous amène à Notre-Dame-des-Prairies dans un moment. Et faut pas manquer le 5 à 7 trad qui est animé aujourd'hui par Justin Lapierre. Nous, on est en congé. Demain, on se retrouve lundi, 16h, pour un autre La Naudière PM. Salut!